nom c'est Patrick, et je suis le coordinateur de la Pierre Noire, et je m'occupe notamment de gérer tous les la programmation, les tout l'aspect administratif, la gestion du lieu, et en lien avec l'association l'Oasis du Haut-Cantal, qui est l'association gestionnaire de la Pierre Noire. Depuis 2017, l'inauguration du lieu, on a une programmation régulière tous les week-ends, en dehors des crises sanitaires et autres. On essaye de diffuser des musiques actuelles, du théâtre, du cinéma. On a aussi des ateliers qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent de temps en temps, d'autres qui fonctionnent tout le temps, genre l'atelier poterie. Et puis sinon, on a aussi un atelier labo photo argentique, un cercle de chant, un atelier théâtre. Et voilà, en gros, la gamme des activités qu'on propose au public de Champagnac et des environs, c'est-à-dire le Cantal Nord, et puis plus loin, la Corrèze et le Puy-de-Dôme, et puis des gens qui viennent jusqu'à Aurillac. Voilà.
Alors on va peut-être faire un petit tour de... Peut-être qu'on peut partir dehors, d'ailleurs, ouais, c'est pas mal. On peut décrire un peu le bâtiment. Là, on est sur... c'est quand même assez massif. C'est vraiment grand, en fait, comme école. C'est pas la petite école rurale, comme on peut s'imaginer dans nos villages de la montagne, là. Mais c'est vraiment un grand bâtiment avec des façades, avec des ornements en briques rouges. Voilà, c'est assez...
Ouais, ça a été construit, si je me souviens bien, dans à peu près la fin de... 1900, je crois que l'école a été construite. Alors, c'est une grande école parce que ici, c'était Champagnac, ça s'appelait avant Champagnac-les-Mines. C'était le plus grand centre minier d'Auvergne. Il y avait 12 puits qui allaient chercher du charbon. Et ce qui explique la taille de cette école, il y a eu jusqu'à 800 ouvriers qui travaillaient dans les mines. Et il y a deux parties à Champagnac. Il y a la partie Bois de l'Ampre, là où on est, qui était le lieu où habitaient plutôt les ouvriers. Et juste derrière nous, il y a la cité Pochat, qui est une cité minière. C'est les corons, enfin c'est vraiment des petites maisonnettes pour les ouvriers de la mine, qui n'avaient pas de salle de bain, et ce qui explique qu'au sous-sol, on a les douches, les enfants venaient se laver ici. De l'autre côté, on a effectivement des espèces de petites collines qui sont le résultat de l'exploitation minière. C'est des terrils qui ont été recouverts de végétation, donc on le sait plus maintenant, mais effectivement. Et là, on aperçoit d'ici, il y a très peu de vestiges de l'époque minière en dehors de l'école. Mais il reste encore, on aperçoit la droite, tout droit. Là, voilà, c'est une des salles de machines d'un des puits, le puits Madeleine. Le président directeur général de la mine avait je sais pas, 10 ou 12 enfants, et il nommait chaque mine du nom d'un de ses enfants. Et donc là, c'était le puits Madeleine, et on voit, ça a été transformé en habitation maintenant, mais c'était la salle des machines. Il y en avait 12 comme ça. Et juste en dessous, Id, c'était le carreau de la mine. C'est là que travaillaient les enfants et les femmes, dans les métiers les plus pénibles, comme d'habitude, traitait le charbon avant d'être utilisé dans des produits chimiques très toxiques.
Au Saint-Hilaire, touchez Régine, tout se passe au fond, au fond, au fond. C'est comme dans les mines de charbon. Ceux qui travaillent dans les mines descendent blancs, remontent noirs, c'est ce qui m'arrivait chaque soir. Au Saint-Hilaire, couché Régine.
À partir de la première mandature de l'ancien maire en 2017, on a visité, on cherchait un lieu et il venait de fermer l'école qui était encore en activité mais qui accueillait plus que la maternelle. Donc il y avait quelques élèves qui ont été dispatchés dans le haut de Champagnac ou à Ide, juste en dessous. Et donc on s'était dit que ça allait être super simple justement parce que c'était une école. Et en fait, c'était très compliqué parce que les consignes de sécurité changent et c'est pas les mêmes pour une école et pour une salle de spectacle. Donc on a eu des investissements assez forts au départ. Heureusement, on a eu un accompagnement par la région, le programme Leader, ce qui nous a permis de démarrer les investissements, les installations nécessaires à accueillir du public et d'ouvrir ce lieu. Voilà.
On peut commencer la visite alors.
Alors, on va passer plutôt par là. Cette salle, la première sur laquelle on rentre, c'est la zone de vie, quoi. C'est ici que les artistes et nous-mêmes, on vit. À l'étage, on a rénové un certain nombre de chambres où on accueille les artistes qui viennent pour des performances, des spectacles, ou aussi des résidences, comme c'est le cas en ce moment, puisqu'on accueille Baltringue pendant une semaine. Et ici, il y a à la fois le salon et les cuisines. Et au-dessus, disons qu'il y a à peu près 8 chambres. On peut accueillir jusqu'à à peu près 10 personnes avec des chambres relativement confortable, et même si l'hiver il fait un peu frais, ça c'est le côté un peu rude de l'environnement montagneux, mais ça nous permet d'avoir une vue sur les monts du Cantal, et c'est relativement bien apprécié par les artistes qui viennent s'installer ici.
Donc on est dans un salon, quoi. On a vraiment avec les fauteuils bien confortables, et puis les murs sont recouverts d'affiches, de photos. J'imagine que c'est des affiches de tous les groupes et les troupes qui sont passées un peu.
Pas mal, sauf on a parfois des vestiges d'anciens événements qui existaient ici dans la région et qui n'existent plus. Des festivals rock, là, avec, où il y avait à l'époque, dans les années 80, des super, super festivals ici qui ont disparu. Il y avait les VRP, Elmer Footbeat, enfin des vraiment des pointures. Et on a une affiche des Ramones et ils sont jamais venus ici.
Ouais, je suis un peu déçu aussi, je vois une affiche de Marilyn Monroe et je l'imaginais en résidence à la Pierre Noire, c'est pas le cas, c'est ça?
Non, malheureusement non. Hey, oh, let's go! Là, on passe donc dans la salle qui est principalement la salle des ateliers poterie. Donc ici, un jeudi sur deux, on a l'atelier poterie qui est géré par Gaspard, un maître potier qui s'occupe de l'atelier, qui est assez connu dans la région parce qu'il travaille vraiment avec une manière très... très ancienne, la poterie, sans utiliser de couleurs, de colorants artificiels, etc. Il fait toutes ces poteries avec des couleurs qu'il obtient par la cuisson des terres. Et donc il y a à la fois le façonnage, moi j'y connais rien, mais les colombins, il y a un tour, et on a même un four à l'extérieur qui permet les cuissons des œuvres qui sont réalisées par les stagiaires.
Alors, effectivement, on peut voir, il y a plein de... un peu des boules de terre un peu partout, des baignoires remplies de glaise et quelques œuvres aussi finies.
Alors là, on arrive sur le terrain qui accueille les événements qu'on organise dès que la météo le permet. C'est-à-dire qu'on a ici, on a la chance d'avoir un double préau qui était donc dans l'ancien terrain de l'école et qu'on investit lorsqu'il fait beau. Enfin, je crois que c'est fin juin qu'on a l'intention de revenir là. Et donc, ce qui fait qu'on a des concerts en extérieur et c'est assez sympa parce que on a vraiment un espace assez grand et pas trop de problèmes de voisinage ici. Donc de ce côté-là, on est assez tranquille. Là, on se dirige vers donc, la pierre noire telle qu'elle existe pour tout le public qui vient. Et je rappelle que les événements qu'on organise sont toujours à prix très modique. C'est un peu la marque de fabrique de la pierre noire, c'est qu'on a non seulement un côté spectacle, mais aussi on a beaucoup, dès le départ, voulu que la culture, l'art, soit au centre de nos dispositifs. Et donc on a une salle d'exposition qui fonctionne depuis le début. Le principe, c'est d'avoir toujours les vernissages des expositions d'art, peinture, sculpture, photo. Et d'avoir ça le jour où il y a des concerts, pour qu'on puisse comme ça multiplier, diversifier, mélanger les publics. Justement ceux qui ne viennent pas souvent, qui vont peut-être aller à des concerts, mais qui ne vont pas forcément aller à des manifestations d'art plastique. Comme ça, ça nous permet de mélanger un petit peu les deux. Donc on avait vendredi dernier une exposition de photos et on a fait le vernissage à 18h et à 20h, on avait donc un groupe, super groupe turc, Johnny McCam, qui a fait un concert et ça nous a permis d'avoir des gens très divers qui viennent voir à la fois l'expo et d'autres personnes qui viennent à l'expo et qui se prolongent sur un concert. Donc on va grimper quelques marches jusqu'à la salle d'expo. Et donc là, en ce moment, c'est l'exposition de Philippe Moncel. Philippe Moncel, c'est un photographe très connu et on a la chance qu'il soit installé pas loin. Philippe Moncel, c'était l'assistant du photographe Leloir, et je suis sûr que certains des auditeurs ont chez eux une photo de lui. C'est notamment la photo de Brel, Brassens et Ferré qui est un peu iconique, et c'est lui qui l'a prise. C'est un photographe de star, il a photographié toutes les stars du monde, de James Brown jusqu'à David Bowie, en passant par c'est la liste des stars qu'il a photographié est interminable. Et il a, pour cette exposition-là, décidé d'adapter sa photo de star, mais en prenant des animaux domestiques, avec tout un discours, évidemment, sur notre relation avec ces animaux et comment ils nous font confiance et jusqu'où on les emmène, dans quel monde on les emmène. Donc, je crois qu'il y en a 62 photos.
Ouais, un peu de décret, c'est étonnant. Donc, c'est un alignement de portraits presque, on pourrait dire un peu studio hardcore, mais avec que des bêtes, des vaches, des chevaux, des moutons, des lapins. Un peu, enfin vraiment, oui, tout ce qui est animaux domestiques, une genre un coq aussi.
Il y a quelques êtres humains, mais qui ont été mis dans un coin. Et c'est un travail qui a nécessité beaucoup, beaucoup de temps. Parce que pour avoir ces regards, parce que c'est vraiment une question de regard, il a fallu qu'il reste avec les animaux pendant très, très. Ce qu'il appelle les non-humains, il a passé du temps pour avoir cette relation de confiance et qui donne ces photos assez poignantes.
C'est vrai que tous les animaux quasiment nous regardent dans les yeux, quoi. Il y a un truc vraiment frontal.
Absolument.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content.
roulant ses cailloux sur l'étang, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous.
B'ART, parce qu'on fait aussi des expos dans ce lieu-là. Et donc, ici, c'est le nerf de la guerre. C'est là que, comme je disais, on est pas aidé au niveau financièrement. On est un peu pas dans une région qui est à la pointe du progrès en termes d'aide aux associations culturelles. C'est Wauquiez qui est au pouvoir ici. On est en Auvergne-Rhône-Alpes, donc on n'a pas beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais on se rattrape par des activités qui nous permettent de ramener un petit peu d'argent avec la fréquentation et avec les entrées et les consommations. Voilà comment on fonctionne. Ce qui nous permet de vivre pour l'instant.
Voilà quoi, un café avec des tables, un bar en bonne et due forme et puis plein de magazines, des livres un peu partout, même une encyclopédie géante Larousse à disposition.
On propose aussi des livres au prêt, enfin comme ça se fait souvent, avec une spécificité, c'est qu'on propose des littératures, journaux qui est plutôt pas accessible ici dans le coin parce qu'on n'a pas de on est très peu pourvu en relais associatif, notamment pour ce qui concerne la presse un peu alternative, militante, il n'y en a pas beaucoup. Plus, on a un fonds de bouquins, de revues sur tout ce qui est artistique. Voilà. Et là, on va avoir un petit peu de bruit parce qu'on est proche de la salle de concert et en ce moment, il y a la résidence des Baltringues. Et donc, voilà, on va essayer de rentrer, mais sans déranger. On est dans la salle de concert et les Baltringues sont en train de répéter. Ils vont jouer samedi à 20h. Et donc il y a 6, ils sont 6 ou 7, voilà, je n'arrive pas à compter, 1, 2, 3, 4, 6 ou 7 musiciens. Alors ça c'est une salle qui est polyvalente, on n'a pas seulement de la musique, on a aussi du cinéma, on a un grand écran là, et puis on a aussi du théâtre, de la danse, et on a un son qui est assez, d'après, ben, c'est pas moi qui le dis, c'est les musiciens qui viennent, on a un bon son, parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'isolation, parce que de ce côté-là, il y a des maisons, donc il fallait qu'on puisse faire quelque chose qui ne résonne pas vis-à-vis des habitations juste derrière. Et du coup, on a un son assez mat, ce qui est assez, assez agréable, non seulement pour les répétitions, mais aussi pour les concerts. Et on n'a pas aussi le bar dans la salle, ce qui est un autre élément qui est assez rare dans beaucoup de lieux associatifs, et ce qui permet une écoute, quand même, une bonne écoute des groupes.
Prenez le temps de vous regarder, ça va, c'est cool, ok, tu vois, on est chaud là, on y va. C'est un parfait moment pour ressourcer ensemble. Ouais, okay. Et la troupe est parfaite, aller dans le public là-bas, c'est génial, il n'y a vraiment que des bonnes idées et tout fonctionne. Si vous voulez vous regarder dessus, ouais. Il n'y a pas de souci.
Après, qu'est-ce que t'as pensé? Parce que tu vois, du moment où je fais passer le chute, là, ouais. Je me retrouve là-bas, et en fait, je suis resté derrière, parce que je me disais, du coup, moi, je le suis caché, on ne me voit pas.
T'as raison, c'est pas suffisant pour voir Vince, en fait. Ouais.
We'll be right back. finir dans un sort.
Merci.
Alors en termes de programmation, il y a un peu une idée, une ligne, un esprit.
Alors pour ce qui concerne la musique, la ligne c'est celle qui est défendue par Carole qui s'occupe de la programmation musicale. Notre idée c'était d'abord de proposer des choses que les gens du Cantal n'ont pas l'habitude de voir. Il n'y a pas beaucoup de concerts dans le coin, mais lorsqu'il y en a, il y a 2-3 groupes qui se partagent les concerts ici. Donc on voulait essayer proposer des groupes qui sont d'une qualité irréprochable, des super musiciens et qui sont connus, qui ont une notoriété au niveau national et parfois même international, mais qui n'ont pas les tourneurs ou ou l'envie d'être dans une démarche commerciale, ce qui permet d'avoir des tarifs très faibles au niveau des cachets, de toute façon on peut pas plus. Et donc, par contre, on refuse tout ce qui est reprise, la musique un peu variétoche ou commerciale, ça on n'en propose pas, mais par contre, à part ça, on propose de tout, du jazz, de la musique classique, beaucoup de punk, de musique actuelle, comme ils disent. Et voilà, donc on a pas d'interdit, mais ce qui est le seul truc qui nous dirige, c'est qu'il faut que ça soit vraiment, vraiment bien. Parce que si les gens font l'effort de venir jusqu'ici, il faut qu'ils repartent contents de leur découverte, de leur expérience. Et c'est le cas. Les gens qui viennent, c'est rare qu'on ait des échos négatifs, quoi. Au contraire.
Sur une nouvelle période qui s'ouvre pour la Pierre Noire. J'ai cru comprendre que ça n'avait pas été forcément facile les dernières années pour votre activité, en fait.
Au départ de la Pierre Noire, on a été soutenu par le maire de l'époque, Gilles Rios, qui n'était pas particulièrement branché culture, mais qui était ouvert à des projets sur sa commune, qui nous a proposé cette école pour nos activités. Manque de chance pour nous, les alternances politiques sont très très rapides ici, sont très nombreuses. Un maire dure rarement plus d'un mandat à Champagnac, ce qui est un peu atypique. Souvent les maires durent, mais pas ici. Donc c'est pour ça qu'on avait pris un bail en amphithéotique qui sont des bails des baux de longue durée qui nous permettaient justement d'être protégés en cas d'alternance politique, ce qui est arrivé. Et donc le nouveau maire avait un des projets principaux, c'était de nous foutre dehors et de nous faire disparaître. Et donc, il a été voir la préfecture en disant qu'il y avait des squatteurs chez lui pour nous foutre dehors. Et chose assez unique aussi, c'est la préfecture qui nous a défendus en disant non, ils ont un bail. Ils ne sont pas des squatteurs, monsieur le maire. Mais tout le monde, quand même, ça donnait une ambiance un peu, un environnement hostile à nos activités. Et c'est déjà qu'on n'est pas soutenu financièrement par ceux qui devraient normalement aider une entreprise culturelle et une association d'éducation populaire telle que la nôtre. On se retrouvait dans un environnement très, très difficile. Et quelque chose de complètement incroyable est arrivé. La liste municipale a implosé et tous les trois quarts des élus ont démissionné, à tel point qu'il s'est retrouvé pratiquement tout seul. La préfecture a exigé l'organisation de nouvelles élections intégrales qui ont causé sa perte et son éviction et le retour de l'ancien maire qui nous aimait bien. Donc c'est vraiment une renaissance absolue et un conte de fées, une alternance politique dont pourrait s'inspirer le pays au niveau national d'ailleurs. Et donc on est reparti, je dirais pas comme en 40, mais on est reparti sous de bons auspices. On espère beaucoup maintenant que on va se faire découvrir des autorités de culturelles et administratives territoriales qui ont oublié peut-être qu'on existait, qui vont se souvenir qu'on a besoin d'eux financièrement. Et on espère aussi que le public n'aura pas oublié qu'on existait, qu'ils vont revenir aussi nombreux que c'était le cas avant la fermeture. Parce qu'on a besoin de vous, quoi, tout simplement pour exister.